JBFM, l'interview connaît. De Radio Pays des Rots et RPH Sud.
Ok, avec du peps les gars. Du peps.
Avec le service de jeunesse de la ville de Pézenas.
Bonjour, bienvenue sur Radio Pays des Rots, RPH Sud. Je m'appelle Lorenzo Descamps, je suis élève de 4e au collège Jean Ben de Pézenas. Aujourd'hui, nous sommes à la caserne des sapeurs-pompiers de Pézenas avec le lieutenant Stéphane Pignatelli qui a 41 ans. Bonjour, comment allez-vous ?
Bien, merci. Tout d'abord, heureux de vous accueillir au sein du centre de secours de Pézenas pour discuter avec vous sur le monde des sapeurs-pompiers.
Pourquoi avez-vous voulu être pompier ?
Alors la première des choses dans le monde des sapeurs-pompiers, quand on veut devenir pompier, c'est pour porter assistance à son prochain, c'est aider les personnes, c'est aider les concitoyens dans des situations relativement des fois compliquées, puisque quand on appelle les sapeurs-pompiers, c'est rarement pour des bonnes choses, c'est souvent parce que les gens ont besoin d'assistance, et porter également des valeurs telles que le courage, le dévouement, la loyauté ou la solidarité.
Donc le fameux fourgon pompe-tonne, lui, il est constitué de tuyaux d'eau et une pompe pour pouvoir pousser l'eau dans ces tuyaux. D'accord ? Donc il y a 3000 litres d'eau à l'intérieur. Ensuite, les personnels, si vous voulez monter, vous pouvez regarder, ils sont équipés d'appareil respiratoire. Allez-y, montez.
Je suis choqué.
Donc là, après, il y a tout ce qui est matériel respiratoire, radio, éclairage aussi. Parce qu'on a
besoin de... Qu'avez-vous fait pour vous préparer à devenir pompier ?
Alors, pour devenir sapeur-pompier professionnel, déjà, il y a une envie avant toute chose. Et ensuite, on rentre par concours, puisque l'on est fonctionnaire territorial. On dépend du conseil départemental. On a plusieurs possibilités de niveaux de concours avec les concours de catégorie A, B et C en fonction du niveau et du grade auquel on veut accéder. Si on parle du concours de caporal de la catégorie C, la première des choses, c'est l'aspect sportif. Donc il faut se préparer au niveau sportif à des épreuves. Ensuite, on a la partie écrite où on répond à différents critères de rédaction et de QCM. Et enfin, il y a une partie d'entretien oral, d'un échange avec un jury. Les trois notes sont additionnées et ensuite on devient pompier professionnel si on obtient les meilleures notes. Voilà, il faut savoir aujourd'hui que sur des concours, pour vous donner un ordre d'idée, le dernier concours, il y avait 4500 personnes inscrites et on a retenu que 200 personnes.
Quelle est la différence entre un pompier volontaire, militaire et professionnel ?
Alors, c'est trois statuts différents, mais qui sont pour autant complémentaires. Le premier, on va parler des sapeurs-pompiers volontaires, puisque c'est les sapeurs-pompiers les plus nombreux en France. C'est grâce à eux aujourd'hui que les secours peuvent être assurés sur tout le territoire français. Il faut savoir qu'il y a 85% des pompiers que vous croisez dans la rue, habillés en pompiers, qui sont volontaires. C'est des gens qui ne sont pas salariés, c'est-à-dire qui viennent en plus de leur temps de travail. Certains vont jouer au foot. Ben, eux, ils viennent porter assistance à leurs concitoyens. Ça, c'est les pompiers volontaires, donc ils n'ont pas de salaire. Ils sont uniquement là pour aider les gens, sans contribution derrière. 85% des effectifs, ça représente environ 250 000 personnes en France. On a ensuite les pompiers professionnels, qui, eux, sont au nombre d'environ 40 000 en France. Très peu nombreux, paradoxalement, et qui sont dans les grosses casernes. Voilà. Ces deux statuts, les pompiers professionnels et volontaires, dépendent du ministère de l'Intérieur, donc avec le ministre de l'Intérieur comme responsable, à l'inverse des pompiers militaires, qui eux dépendent du ministère de la Défense, et comme son nom l'indique, c'est des militaires. On en trouve très peu, par contre, essentiellement basés à Paris, avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et du bataillon des marins-pompiers à Marseille. Voilà, c'est historique et on perdure dans ces statuts-là, tout simplement parce que ce sont les deux plus grosses villes de France et qui ont besoin d'une réponse opérationnelle omniprésente.
Parce que nous, le problème, quand on rentre dans une maison qui a brûlé, le gros problème, c'est les fumées chaudes, parce que ça risque de créer des explosions, et puis les fumées en général, parce que ça nous empêche de respirer. On est équipé de matériel pour respirer, on appelle ça des aéries. Et donc avec ce camion, on a des recharges de bouteilles qui vont nous permettre de changer les bouteilles quand on n'a plus d'air. Après, on a du matériel de ventilation qui vont nous permettre de pousser les fumées.
Comment gérez-vous vos déplacements et votre vie de famille ?
Alors, il faut savoir que la vie de famille, il faut avoir une compagne et des enfants relativement sympathiques, puisque c'est vrai qu'on assure des gardes opérationnelles dits H24. Donc, on s'en va de la maison 24 heures pour assurer des gardes opérationnelles ou 12 heures dans d'autres centres de secours, ça dépend lesquels. Donc, effectivement, c'est pas toujours facile. Si on prend l'exemple de la saison feu de forêt de cet été, où on est parti en Gironde, on est parti sur les Alpes-Maritimes, on est parti dans l'Aude, on est parti dans le Gard. Donc on a eu beaucoup de jours d'absence. Donc effectivement, l'équilibre avec la famille, l'équilibre avec ses enfants est très important. J'ai un petit garçon, un grand garçon de 13 ans et une petite fille de 7 ans. Bon, mais des fois, c'est pas toujours facile d'arriver à avoir ce juste équilibre avec la famille. Et puis, à côté de ça, il faut assurer le travail au quotidien ici, dans le centre de secours, puisqu'il faut gérer les pompiers, puisque à Pézenas, on a 15 pompiers professionnels et 80 pompiers volontaires. Donc, il faut gérer tout ce monde en même temps.
Quelle est la qualité la plus importante chez un pompier ?
La qualité, alors je vais vous parler de valeur. C'est certainement la valeur la plus importante aujourd'hui chez les pompiers. C'est certainement l'altruisme. C'est être capable de donner de sa personne au profit des autres, tout en étant effacé et sans être insistant. Alors c'est une valeur qui est très noble, qui est très dure à concevoir, mais qui est pourtant la plus emblématique chez les sapeurs-pompiers.
Que feriez-vous si un collègue vous mettait en danger ?
Plus on monte dans la hiérarchie et plus on prend des décisions pour les autres. Et donc, par définition, on est conscient, quand on passe le concours d'officier ou même sur des grades de sous-officier déjà, qu'en fonction du commandement que l'on va donner, eh bien, on va mettre en danger peut-être 1, 2, 3, 10 collègues dans notre manière de voir l'intervention. Donc, si jamais ça arrive, parce que ça peut arriver, ben, il faut déjà se dire que le collègue, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas voulu faire ça et que, ben, par définition, on n'aurait peut-être pas fait mieux que lui. Alors, ben, on va accepter le danger, puisque c'est notre métier, tout comme les militaires ou la police. Et puis, on va prendre beaucoup de garanties pour que ça n'arrive jamais. Donc, on a de nombreuses procédures pour ne pas se mettre en danger. Et ensuite, notre métier, et la principale occupation dans notre métier, c'est de s'entraîner, de se former pour éviter que ça arrive. Donc, en fait, on est en premier payé, non pas pour assurer des interventions, même si c'est la finalité de faire une intervention chez les pompiers, mais la première chose, c'est que l'on est payé pour s'entraîner à avoir une éventuelle intervention et à éviter de faire des erreurs ou en tout cas des décisions qui pourraient nous mettre en difficulté. Donc voilà pourquoi on est payé en premier, c'est-à-dire se former et se préparer à intervenir.
Désobéirez-vous à un ordre ?
Ah, grande question, ça. Ça pourrait être un sujet de philosophie, ça, au baccalauréat. Oui, ça peut arriver de désobéir à un ordre. Ça peut arriver si on estime que l'ordre, il est illégal. Il est illégal et il a vocation à mettre en danger de manière trop importante notre vie. Alors, ça arrive très rarement, hein, il faut bien se le dire. On est quand même une corporation où on est hiérarchisé, où tout est organisé. Habituellement, rien n'est laissé au hasard. En fonction des aléas, mais donc en théorie, ça ne doit pas arriver qu'on désobéisse à un ordre. Pour autant, après, il faut quand même être justifié et raisonnable dans tout ça.
Comment traitez-vous les conflits sur un accident ? Comment réagissez-vous avec un citoyen en colère, par exemple ?
Alors aujourd'hui, la société est de plus en plus compliquée. À l'époque, l'institution, la tenue, faisait que les gens étaient relativement calmes quand ils nous voyaient, même s'ils étaient excités parce qu'il y avait un danger, mais ils étaient très respectueux vis-à-vis de nous. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que si on prend l'année 2022, on a eu dans le département de l'Hérault 70 pompiers agressés dans sa globalité. Alors, il y a des gens qui sont agressifs quand on arrive sur intervention, parce que c'est un épiphénomène à un moment donné. Et puis, il y a des gens qui nous attendent pour nous agresser dans des endroits un peu compliqués. Alors, c'est tout le mal de la société qu'on a aujourd'hui. Donc, on a des formations pour éviter ça. On a des exercices où on se met en situation réelle avec des acteurs qui nous mettent en difficulté pour voir comment on réagirait. Mais en tout état de cause, la première des choses, c'est le calme. Plus on est calme, mieux c'est. Plus on est calme et plus on a de sérénité pour répondre aux gens. Et puis, il arrive un moment donné, si on n'a pas le choix et que l'on est en danger, eh bien, le droit nous permet de nous retirer pour ne pas exercer notre mission le temps qu'on soit sécurisé par les forces de police, de gendarmerie, avec qui on travaille en grande proximité. Et ça évite d'avoir des soucis sur intervention. Ceci dit, c'est à la marge. On est rarement... On est plus souvent bien accueilli que mal accueilli par les gens, heureusement d'ailleurs.
Et ça, c'est les camions feux de forêt qu'on appelle. Ça va nous permettre d'aller dans des chemins ou dans les forêts, dans des endroits où on ne peut pas accéder avec des engins normaux.
On peut aller dans l'eau ?
On peut éventuellement aller dans l'eau, mais que jusqu'à un mètre. Parce que après, c'est pas des engins qui bon, ça reste dangereux. Mais là, c'est surtout des feux de forêt. Donc, on s'en sert comme c'est des véhicules 4x4 en inondation. Mais il faut qu'il n'y ait pas trop d'eau non plus.
Donc, là... Est-il possible de visiter un centre de secours ?
Oui, avec grand plaisir d'ailleurs. On accueille les centres de secours, sont ouverts à tous les gens qui le souhaitent dans la mesure du possible. Ça reste quand même un lieu de travail. Ça reste un lieu où il y a quand même des dangers à l'intérieur puisqu'on avait des véhicules incendies. Mais en demandant à l'avance au chef de centre ou à son adjoint ou au commandement en place, voilà, par demande, par autorisation, il n'y a pas de... Aucun centre de secours ne fermera ses portes, bien au contraire, puisqu'on a aujourd'hui besoin plus que jamais de sapeurs-pompiers volontaires. On fait des campagnes de recrutement, on fait des aménagements pour faire venir des gens qui deviennent sapeurs-pompiers volontaires. C'est le ciment même de notre corporation aujourd'hui. Donc il est encore plus aisé d'ouvrir les centres de secours pour que ces gens puissent voir et s'apercevoir de ce qu'est la vie d'un sapeur-pompier volontaire ou professionnel au quotidien.
Comme les pompiers ont un appel toutes les 7 secondes en France, nous avons préparé un questionnaire rapide. Que veut dire FPTL ?
Alors FPTL, c'est l'acronyme de fourgon, pompe, tonne léger. Fourgon parce que c'est un camion poids lourd. Pompe parce qu'à l'intérieur, il y a une pompe qui nous permet d'aspirer de l'eau et de recracher de l'eau. On appelle ça refouler chez nous, pardon. Tonne parce que le concept, c'est la réserve d'eau dans un camion s'appelle une tonne, en référence à l'unité de mesure. Et le L parce qu'en fonction de la quantité d'eau, soit c'est des légers, c'est-à-dire jusqu'à 1500 litres d'eau. Et si c'est un FPT, c'est jusqu'à 3000 litres d'eau.
La corde du lot de sauvetage a un diamètre de ?
Entre 10 et 12 cm, en fait, tout simplement, parce que c'est ce qui lui permet de passer dans la poulie de tractation et de descente.
Sur un ARI CF, que veut dire CF ?
Alors, l'ARI, c'est l'appareil respiratoire isolant, c'est-à-dire c'est l'appareil que l'on met sur le dos pour entrer dans les feux. Contrairement à ce que pensent les gens, ce n'est pas de l'oxygène qu'on a derrière, c'est de l'air, comme on respire de l'air naturellement. Donc en fait, c'est une réserve d'air qui nous permet de rentrer dans le feu. Il y a des ARI à circuit ouvert ou circuit fermé. Donc le CF veut dire circuit fermé. Ça veut dire qu'on récupère l'air à l'intérieur, qui est recyclé et qui tourne à l'intérieur. Le seul inconvénient de ce type d'appareil, on les utilise surtout sur les feux de bateau, sur les feux de tunnel, le seul inconvénient qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, l'air avec le feu devient chaud et on respire de l'air chaud, voire très chaud. Donc au bout d'un moment, on est obligé de sortir parce que c'est compliqué de respirer de l'air chaud.
Combien mesure la liaison personnelle en version courte ?
Alors la version courte, c'est 1,25 m, ce qui nous permet d'être en direct quand on rentre dans un feu. Alors la liaison, c'est ce qui nous permet d'être relié d'un pompier à l'autre. Et quand on doit aller faire des approfondissements de reconnaissance, on a la liaison courte et la liaison longue qui nous permet d'aller au-delà tout seul. Voilà. Mais on n'est jamais détaché l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aller d'un point A à un point B, mais on sera toujours attaché et à moins de 6 mètres. Voilà.
Comment fait-on pour être jeune sapeur-pompier ?
Alors, les jeunes sapeurs-pompiers, c'est une réalité aujourd'hui, dans le sens où il y a différentes écoles. Tous les centres de secours n'ont pas d'école de JSP. Si l'on prend ici, par exemple, à Pézenas, on n'en a pas, mais il y en a une à Servian, il y en a une à Montagnac. Donc, c'est des associations qui sont rattachées au service départemental d'incendie et de secours, au sein de, de l'Union départementale et de la Fédération. Et ensuite, il suffit de prendre contact avec le responsable de l'école, de Montagnac ou par exemple ici de Servian. Et ensuite, en fonction des âges, il y a différents niveaux. Et ensuite, on obtient son brevet de JSP au bout de 3 à 4 ans d'exercice, qui permet ensuite de devenir sapeur-pompier volontaire. Voilà. La suite logique d'un JSP, d'un jeune sapeur-pompier, c'est de devenir après sapeur-pompier volontaire dans nos rangs.
D'où provient l'eau que les pompiers utilisent ?
Alors, l'eau qu'on utilise. Pendant longtemps, on a utilisé le réseau d'eau que tu ouvres l'eau à ton robinet, tout simplement. Donc, c'était de l'eau potable qui était utilisée, qui est encore utilisée aujourd'hui. Quand vous voyez les poteaux incendie rouges, l'eau qui sort, c'est l'eau que l'on peut boire. L'eau étant de plus en plus rare, l'écologie étant aujourd'hui un des centres névralgiques de la réflexion pour tout le monde, on essaye d'utiliser de l'eau qui ne serait pas forcément potable pour éteindre les feux. C'est ce qu'on appelle l'eau brute. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau à des endroits, quand il y a des fleuves, des rivières, des canaux qui passent, et on met en place des manœuvres qui nous permettent d'aspirer cette eau pour la recracher ensuite, ou la refouler, on dit chez nous, sur les feux. Ça évite d'utiliser de l'eau potable qui coûte aujourd'hui très cher, et puis qui est surtout de plus en plus rare dans la vie de tous les jours.
Quelle était votre mission la plus marquante dans votre carrière de sapeur-pompier ?
Alors, l'intervention la plus marquante que j'ai eu malheureusement à faire remonte maintenant à quelques années en arrière sur un accident de la circulation qui a mis en cause donc un véhicule de type fourgonnette où il y avait à l'intérieur 7 personnes contre un poids lourd. Sur la commune de Frontignan. Et malheureusement, sur cette intervention, il y avait un bébé de 3 mois à l'intérieur, il y avait un enfant de 7 ans, et puis des adultes. Le bilan a été dramatique, puisqu'on a fini avec, malheureusement, une seule personne rescapée, malgré les gestes de secours qui ont été prodigués rapidement sur les lieux. Et elle a été marquante, tout simplement, parce qu'on rentrait d'une autre intervention. On était avec un véhicule qui n'était pas du tout adapté, puisque ce n'était pas un véhicule de secours à personne. Et puis on est tombé dessus par hasard, donc on ne s'était pas préparé psychologiquement, comme quand on est en caserne avec un papier qu'on reçoit où on a quelques informations. On est arrivés les premiers. Voilà, donc ça a été une situation très difficile à gérer, avec un nourrisson de 3 mois dessus, un collègue pompier qui lui-même avait perdu un enfant il y avait quelques années en arrière, donc qui n'a pas pu assurer l'intervention puisqu'il ne s'en est pas senti le courage. Voilà, tout un effet boule de neige sur cette intervention, et qui pour autant a été assurée avec professionnalisme, puisqu'après on a travaillé dessus avec des moyens très dégradés. Donc intervention très compliquée. On a eu la chance après, parce que c'est une chance, d'être suivi psychologiquement par nos services. Voilà, c'est marquant et ça restera à jamais. Mais la chose la plus belle que j'ai pu faire après, c'est quand je suis rentré chez moi, c'est serrer mes deux enfants dans mes bras et savoir la chance que j'avais, qu'ils étaient toujours là. Voilà, donc des fois, malheureusement, on ne fait pas que des interventions qui finissent bien.
Comment on s'en remet de cette situation ?
Comment on s'en remet ? Après, la vie suit son cours, malheureusement. Si on peut dire ça, le quotidien revient, on est suivi psychologiquement puisqu'on a la chance d'avoir un service départemental d'incendie et de secours qui a mis les moyens aujourd'hui pour nous suivre avec une psychologue éventuellement, une cellule d'aide psychologique avec des infirmiers, des médecins, ce qui n'était pas le cas il y a des années en arrière. Et puis après, la vie prend le dessus, on revoit sa famille, on reprend le travail et puis ça passe, mais on n'oublie jamais. On n'oublie jamais parce que malheureusement, c'est l'intervention qui est aujourd'hui certainement la plus difficile à oublier, que j'oublierai jamais.
Merci. Aimez-vous votre métier ?
Ah, aimez-vous votre métier ? C'est certainement le plus beau métier du monde que j'ai la chance d'exercer. C'est ma passion. Donc j'ai la chance tous les jours de me lever, de venir travailler avec la joie de vivre, avec la chance que je sais d'avoir le métier que j'ai, d'aider les gens. Donc pour moi, ouais, c'est le plus beau métier du monde, c'est une certitude.
Merci de nous avoir reçus, lieutenant Stéphane Pignatelli. C'était Mathis Van Imp et Lorenzo Descamps avec Maë Jolicoeur à la technique qui remplace Oscar Gutiérrez et Elliot Bonnet à la technique sur RPH Sud, Radio Pays d'Hérault. Au revoir et bonne fin de journée.
Merci à vous.
JBFM, l'interview collée sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Ok, avec du peps les gars. Du peps.
L'émission des élèves de quatrième du collège Jean-Mel.
Adriano, Carla, Louise,
Elliot, Mathis, Steve,
Oscar, Joshua, Lorenzo,
Adrien, Gaspard et Maë.
Avec le service de jeunesse de la ville.